Chapitre 13. Allongé sur mon lit après avoir changé mon pansement et inspecté mes hématomes qui viraient au violet, je songeais au labo. À beaucoup trop de choses. Par le vasistas, le jour faiblissait lentement. Il me fallait faire beaucoup d'efforts pour m'empêcher de trop penser aux miens. Quel réveillon de Noël ils allaient passer. Mais Andrew avait raison. Cela n'avançait à rien pour le moment. Épuisé, je finis par m'assoupir. Benoît me réveilla quelques heures plus tard. Nous avions rendez-vous avec l'organiste rencontré l'après-midi. Nous décidâmes d'emprunter les passages qui reliaient en sous-sol l'église à la cathédrale. Au fond de la sacristie, nous descendîmes les courtes marches d'un escalier étroit en colimaçon qui menait aux caves. Partout flottait le parfum caractéristique de pierres légèrement humides. Nous traversâmes un chapelet de salles voûtées. Chaque fois, Benoît prenait soin de refermer les lourdes grilles derrière nous. Tout un bric-à-brac d'objets étranges s'accumulait dans les recoins. D'anciens ornements, des nappes d'autel usées, des prie-dieux, du mobilier liturgique, des tabourets, de vieux bancs d'église. La dernière salle, plus vaste, était remplie de confessionnaux. C'était surréaliste. Une bonne dizaine de ces énormes meubles, où d'innombrables fidèles s'étaient allégés de leurs péchés, se serraient côte à côte dans un drôle de désordre. Benoît remarqua mon expression. « Ça a changé, tu ne trouves pas ? C'est amusant, toutes ces boîtes à vérité. On en a bavé pour les installer ici, mais ça fait une belle entrée pour les souterrains. » De l'intérieur d'un confessionnal, Benoît tira deux lampes torches. Il revint sur ses pas et éteignit la lumière. Nous n'étions plus éclairés que par deux faisceaux blancs. Se glissant dans un autre, Benoît actionna un taquet et repoussa le fond amovible. Nous entrâmes dans les galeries qui quadrillaient tout le sous-sol du quartier. Le réseau de souterrains datait, pour les plus anciens, du début de la construction de la cathédrale. Ils avaient servi à établir un lien protégé et secret entre le chantier et ses concepteurs. Chartres avait en effet bénéficié de techniques et d'un esprit très en avance sur leur temps. Il n'était pas question qu'un légat du pape ou un notable puisse saisir toute l'avance spirituelle, intellectuelle et technique des bâtisseurs du lieu. Il ne faisait pas bon être plus doué que ceux qui se prenaient pour les chefs du monde. Rien n'a changé. Le secret fut donc de rigueur dès le commencement. Les galeries furent ensuite utilisées pour se protéger des pillages, des attaques, des trois incendies qui avaient ravagé la cathédrale sans jamais atteindre ni ses supérieurs, ni les précieuses archives. Le plan complet des souterrains n'était connu que de quelques frères qui se l'enseignaient de génération en génération. Les miracles qu'avaient permis ces passages dérobés tenaient une large part dans les légendes qui hantaient les environs. Benoît et moi avancions vite. On aurait pu sans difficulté marcher debout et à plusieurs de front, sauf aux abords des carrefours où le tunnel se resserrait. Il fallait alors se baisser et passer en file indienne. Ces boyaux avaient pour fonction de freiner la progression d'éventuels envahisseurs. Quelques hommes peu armés auraient suffi pour stopper les assaillants, forcés par la configuration des lieux de se présenter un par un. Il était pratiquement impossible d'évaluer la distance que l'on avait parcourue. Les murs de pierre étaient tous identiques, sans aucun repère. C'était volontaire. En tuant la notion de distance, les architectes posaient un problème supplémentaire aux intrus. Chaque carrefour devenait un dilemme, une source d'erreurs et d'égarements. Le secret de guidage était aussi simple que génial. À chaque bifurcation, des pierres ferreuses aimantées avaient été disposés systématiquement dans le mur de droite du passage menant à la cathédrale. Quiconque connaissait ce secret pouvait alors, sans jamais être venu auparavant, se repérer dans ce labyrinthe à l'aide d'une simple boussole réagissant au minerai magnétique. L'allée étant guidée par la droite, le retour se déduisait à l'évidence. Ceux qui s'aventuraient ici sans y être invités avaient toutes les chances de s'égarer dans l'une des nombreuses galeries sans issue. Nous arrivâmes dans ce qui semblait être une salle en cul-de-sac. Benoît s'approcha sans hésiter d'une paroi. Des mains et du genou, il pressa aux endroits précis qui déclenchèrent un mécanisme de contrepoids vieux de plusieurs siècles. Tout était mu par un volume de sable qui actionnait en s'écoulant de puissants leviers. Ce procédé était connu en Europe depuis que les premiers croisés l'avaient rapporté d'Égypte. Il avait été adapté et fabriqué à une époque où la mécanique n'existait pour ainsi dire pas et où seuls quelques rares moines pouvaient concevoir et exécuter un plan. Le mur pivota lentement dans un raclement de pierre pour révéler un escalier. Nous grimpâmes l'équivalent de 2 étages et arrivâmes devant un nouveau mur que Benoît fit basculer par le même procédé. Je reconnus immédiatement la crypte de la cathédrale. Elle s'étendait sous la presque totalité de l'édifice et était divisée en chapelles de taille variable suivant leur orientation. Nous enfilâmes un large couloir circulaire qui passait devant l'alcôve arrondie dans le mur abritant le puits des saints forts, puis devant l'entrée de la chapelle Notre-Dame de Souterre. Au début du XXe siècle, des fouilles avaient révélé un pilier qui était considéré comme le plus vieux des vestiges datant de l'époque gallo-romaine. Il était mis en valeur dans une salle étroite et tout en hauteur, d'où partait également un escalier aboutissant au chœur. Benoît m'y précéda. Je ne savais pas combien de marches nous avions pu gravir depuis notre départ, mais je commençais à fatiguer. J'étais loin d'avoir récupéré. Enfin, Benoît ouvrit la petite porte qui débouchait dans la cathédrale. Nous étions arrivés. L'édifice était désert. En cette veille de Noël, les gens étaient rentrés chez eux réveillonnés en famille, rendant la place à sa pure quiétude. La cathédrale s'emplirait à nouveau de vie pour la traditionnelle messe de minuit. En attendant, seuls les cierges offerts à Notre-Dame du Pilier faisaient ressortir les dorures des tuniques et des couronnes de la Vierge et de l'Enfant Jésus et apportaient encore une légère clarté à la partie nord, tandis qu'à l'entrée, la crèche, dominée par l'ange Gabriel, baignait dans la douce lumière des rangées de bougies votives rouges et blanches, dont la lueur se perdait avant même d'atteindre les voûtes. Benoît se dirigea vers une armoire électrique cachée derrière l'énorme statue blanche de l'autel. Le déclic d'un gros interrupteur résonna dans tout le chœur. Quelques projecteurs illuminèrent la voûte et les piliers, conférant à l'ensemble une allure et un mystère qui lui allaient à merveille. Hâtons-nous, notre jeune musicien doit attendre dehors. Quelques instants plus tard, la petite porte de la sacristie s'ouvrait pour laisser entrer l'organiste. Le jeune homme me salua et disparut derrière les colonnes. Seul l'écho de ses pas nous renseignait sur sa progression dans la nef. Le grincement d'une porte nous parvint, encore quelques pas plus lointains, puis de nouveau le silence. Je m'assis avec Benoît au centre du labyrinthe qui ornait le sol de la nef. Réputé dans le monde entier, ces quelques mètres de diamètre avaient posé autant de problèmes aux historiens que l'affaire du masque de fer. Les uns voyaient dans ce motif symbolique un parcours initiatique, les autres une simple décoration, mais personne ne comprenait pourquoi le bouclier de bronze qui marquait son centre avait disparu le jour même où Philippe le Bel avait donné l'ordre d'arrêter les Templiers. « C'est une bonne chose que tu sois ici ce soir, » murmura mon compagnon. « Tu as eu raison de venir nous voir. Cela te donnera de la force pour demain. » Les premières notes de l'orgue s'élevèrent. « Écoute, il a débuté sa formation à 9 ans. Cela s'entend. » Lentement, les accords emplirent la cathédrale. Le crescendo des notes, la perfection du jeu que les murs valorisaient d'un écho parfait, rendait l'alchimie infaillible. Plus rien ne comptait désormais que la mélodie, tour à tour assez puissante pour guider le monde ou assez douce pour bercer un enfant. Les notes emplissaient l'espace, habillant les piliers, caressant les vitraux, courant sur les dalles et purifiant notre esprit. L'organiste jouait fabuleusement bien. Nul besoin d'être un spécialiste pour le comprendre. L'émotion faisait la différence. Il possédait dans ses mains le génie de la musique, la vie des partitions. Le concert dura trop peu de temps. Quand le jeune Irlandais redescendit, je l'attendais, infiniment reconnaissant de nous avoir permis de l'écouter. Il était heureux d'avoir donné, et son cadeau m'avait rendu plus douce l'absence des miens. Benoît le remercia avec la bienveillante fierté d'un père pour son fils, puis il replongea la cathédrale dans le silence et l'obscurité, laissant la sublime matière attendre que l'esprit lui donne à nouveau vie. Nous prîmes le chemin du retour. Même si j'étais loin de mon entourage, la nuit serait un peu plus sereine, pleine de l'émotion d'aujourd'hui et des espoirs de demain. Je pensais à Nathan, à Andrew, au monde et à ses combats. Tout cela avait-il un but? Bizarrement, j'étais presque heureux. J'avais souffert, et c'était loin d'être fini, mais il me restait à vivre la plus fabuleuse aventure qu'un homme puisse rêver. Renaître, en sachant pour qui. Pour la seconde fois depuis l'attentat, j'éprouvais une certitude, je n'aurais échangé ma place avec personne.